Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Ne sais-tu pas que sans toi, sans ton cœur, sans ton amour, il n'est pour ton mari ni bonheur, ni vie. Bon Dieu, que je serais heureux si je pouvais assister à l'aimable toilette. Petite épaule, un petit sein blanc, élastique, bien ferme. Tu sais bien que je n'oublie pas les petites visites. Tu sais bien la petite forêt noire. Je lui donne 1000 baisers et j'attends avec impatience le moment d'y être. Baisers à la bouche, aux yeux, sur l'épaule, au sein, partout, partout. Ces mots fiévreux ne sont pas tirés d'un roman érotique, mais bien de l'une des nombreuses lettres d'amour passionnées écrites par Napoléon Bonaparte à sa femme Joséphine de Beauharnais. À une époque où la bourgeoisie considère le mariage comme une institution servant avant tout à préserver ses intérêts économiques, Napoléon, le célèbre conquérant, le plus grand stratège militaire d'Europe, lui, brûle d'amour pour sa femme. Leurs caractères si opposés et leurs attentes radicalement différentes rendront leur union particulièrement mouvementée. Et pourtant, même après leur divorce, les deux ex-époux ne cesseront de se porter une affection et une attention sincères, rarement égalées au sein de couples toujours mariés. Napoléon et Joséphine, c'est l'histoire d'un amour profond qui saura dépasser le cadre du couple et du mariage.
Napoléon porte dès les premiers instants une passion brûlante à sa femme. C'est indéniable. Malheureusement, la réciproque est loin d'être vraie. Tromperies incessantes au vu et au su de tous, dépenses inconsidérées, désinvolture et mondanité en lieu et place de contrat de mariage. Joséphine ne craint pas de faire tourner son mari en bourrique. Lui, le conquérant si redouté par les armées du monde entier. Or, il faut bien l'admettre, tout au long de son mariage, le plus brillant stratège d'Europe aura moins de mal à conquérir des pays étrangers que le cœur de sa femme. Vous écoutez À la folie, pas du tout.
Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, tout au long de 4 épisodes, découvrez la face cachée du couple mythique Napoléon et Joséphine. L'histoire d'un amour étrangement ficelé, mais tellement profond qu'il habitera l'empereur déchu jusqu'à son dernier souffle. Dans un vaste lit, deux jeunes mariés émergent de sous les draps. Joues rouges et cheveux ébouriffés, le jeune homme reboutonne sa chemise de travers, encore chamboulée par l'intensité de cette étreinte qui achève leur nuit de noces. La femme, elle, bâille discrètement avant d'adresser un sourire poli à son mari tout en réajustant sa coiffure. Napoléon, jeune général de 26 ans, vient d'épouser Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie. 32 ans, veuve et déjà mère de deux enfants. Si pour le futur empereur ce mariage est un rêve devenu réalité, lui qui est fou amoureux de sa femme depuis leurs premiers échanges, celle que tout le monde appelait alors Rose, est très loin de partager l'enthousiasme de son époux. En effet, au moment de leur rencontre, Rose mène une vie mondaine éclatante, associé à un libertinage sulfureux. C'est donc dans un pur esprit bourgeois, pour assurer une sécurité à ses enfants et retrouver une position plus stable dans la société, que la jeune veuve a accepté d'épouser ce jeune général à la carrière prometteuse. Tandis qu'elle renoue ses cheveux, assise sur le bord du lit, Napoléon l'enlace avec fougue. Je sais que ton prénom a été murmuré 1000 fois par tes amants passés. Je ne supporte pas. Je refuse de t'appeler d'un nom qui a déjà résonné à tes oreilles, dans d'autres bras, par d'autres bouches que la mienne. Je te le jure, Rose appartient désormais au passé. À mes côtés, dans mon cœur, dans mes bras, par ma bouche, tu seras la seule et unique Joséphine.
C'est vrai que tous les historiens relatent la même version au sujet de ce couple a priori mal assorti. Un mari totalement épris de sa femme, aux petits oignons pour elle, et une Joséphine indifférente et infidèle. Mais comme souvent, la réalité est plus nuancée. Car si ce couple a su nouer une relation si proche et empreinte d'affection après leur divorce, c'est bien que de solides attaches s'étaient nouées entre eux pendant leur mariage. Il faut redire qu'à notre époque et dans nos sociétés contemporaines, aimer la personne que l'on épouse est une norme qui n'existait pas au XIXe siècle. Aussi, il n'y a pas de cynisme chez Joséphine quand elle accepte d'épouser Napoléon. Simplement, ce mariage est pour elle un mariage bourgeois classique. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout d'un accord économique servant à renforcer une position sociale entre les deux parties. La surprise vient plutôt du fait que Napoléon, lui, brûle d'amour pour sa femme. Ce qui, à cette époque, est quasiment inconcevable, voire anormal. En plus d'être amoureux transi de Joséphine, Napoléon porte une immense tendresse à ses deux beaux enfants, Eugène et Hortense, nés de la première union de sa femme. Joséphine le sait et s'estime chanceuse d'avoir pour second mari un homme si prévenant. Car ce militaire implacable et autoritaire sur le terrain est dans l'intimité un homme d'une modernité surprenante, époux aimant et beau-père comblé, rempli de la joie que lui procure cette famille recomposée. Mars 1796. Deux hommes robustes remontent l'allée d'un jardin en tanguant sous le poids d'une imposante armoire en merisier. Dans l'hôtel particulier qui se dresse au bout de l'allée, Joséphine et ses deux enfants discutent devant la cheminée qui brûle déjà dans le vaste salon, encore peu meublé. Hortense, 13 ans, supplie sa mère de récupérer pour sa chambre un tableau du peintre Véronèse appartenant à son frère Eugène. Mais enfin, Hortense, votre beau-père l'a offert à Eugène pour son anniversaire. Comment imaginez-vous un instant pouvoir vous l'approprier ? L'adolescente lève les yeux au ciel, peste et déplore l'injustice. Son frère, contrairement à elle, ne s'intéresse nullement à l'art. Piqué au vif, Eugène s'emporte contre l'impertinence de sa sœur. Dans la cuisine, Napoléon a déposé en secret un énorme bouquet d'orchidées sur la table principale et demandé à la bonne de sortir des malles son vase le plus précieux. Un sourire aux lèvres, le général observe la domestique arranger le bouquet. Ce jour est l'un des plus heureux de sa vie. Enfin, Joséphine partage son toit. C'est un rêve devenu réalité. Napoléon redescend de son petit nuage quand il entend la dispute qui vient d'éclater entre ses beaux enfants.
Allons les enfants, ne vous chamaillez pas. Hortense, comme vous le savez, je pars en campagne en Italie dans quelques jours. Je vous promets de vous ramener un tableau de maître, ainsi que quelques tissus éclatants pour décorer votre chambre à votre guise. Et vous le savez, oncle Bibiche n'a qu'une parole.
Puis, en lassant tendrement sa femme...
Et toi, ma Joséphine, as-tu tout ce qu'il te faut ?
Eh bien, puisque nous parlons de décoration d'intérieur, il me faudrait passer commande à la manufacture de Jouy en Josas pour une dizaine de paires de rideaux. Chambre, séjour, petit salon, bureau... Ah, et j'y pense, les 5 tapis persans sont à récupérer dès demain. Un domestique s'en chargera, évidemment. Quant à ce canapé, je le trouve bien petit dans notre nouveau salon, n'est-ce pas ? Et surtout, sa couleur jure avec la commode en laque chinoise qui ne devrait plus tarder à arriver.
Diable, Joséphine, ne dilapide pas notre argent de la sorte, je t'en conjure.
une discussion tendue s'engage entre les deux époux, au cours de laquelle Napoléon échoue à faire entendre raison à sa femme. Mais la dispute autour des dépenses inconsidérées de Madame Bonaparte est de courte durée. Joséphine a bien conscience que son mari est un allié précieux pour elle et ses enfants. Et même si la future impératrice n'est pas encore transie d'amour pour son mari, elle sait comment le combler. C'est avec un sourire malicieux qu'elle met fin à l'irritation de Napoléon, en lui proposant d'aller tester ensemble le nouveau lit à baldaquin de leur chambre à coucher.
Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite après.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Avril 1796, dans un vaste lit. Un jeune homme et une femme émergent de sous les draps. Si la scène a comme un goût de déjà-vu, Joséphine est dans de tout autre disposition face au nouveau protagoniste qui s'est glissé dans le lit marital. Joue rouge et cheveux ébouriffés, Madame Bonaparte éclate de rire avant de poser sa tête sur le torse de Louis-Hippolyte Charles. Les yeux fermés, le garçon tente de reprendre son souffle pour calmer les battements saccadés de son cœur sur le point d'exploser.
Pardieu, Joséphine, je comprends mieux les lettres passionnées que vous envoie votre mari.
Croyez-moi, ces lettres sont plus ardentes que ces étreintes. Tenez, en voici encore une reçue ce matin même. Je ne sais plus où les ranger. Mon secrétaire déborde de ses missives quotidiennes.
Vous ne l'avez point ouverte ? Vous devriez pourtant la lire. Votre mari est en campagne militaire, les nouvelles peuvent être graves.
Les nouvelles sont que je lui manque et qu'il souhaite me voir le rejoindre. Mais si vous y tenez, eh bien soit, lisons-la.
Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloignés de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. Cependant, dans ta dernière lettre du 23 au 26 février, tu me traites de vous. Vous toi-même ? Ah, mauvaise ! Comment as-tu pu écrire cette lettre ? Qu'elle est froide ! Ah, mon ami, ce « vous » me fait regretter mon antique indifférence. Malheur à qui en serait la cause !
Au moment du départ de Napoléon pour la campagne d'Italie, le couple est marié depuis quelques jours seulement. Et c'est vrai que sa femme ne lui est pas encore totalement attachée. Mais son indifférence des premiers temps va laisser place peu à peu à une gratitude profonde et à un amour loyal pour celui qu'il aura aimé comme aucun autre homme auparavant, en plus de prendre soin de ses enfants comme un vrai père.
Mais en attendant d'être touchée par la grâce et que l'amour pour son mari la submerge, Joséphine ne quitte plus son jeune amant. Elle va même jusqu'à l'impliquer dans des affaires plus ou moins douteuses qui lui permettront de quitter l'armée. Sa désinvolture est telle que bientôt, le tout Paris est au courant de sa liaison à peine secrète avec le capitaine Hussard. La future impératrice cherche à peine à s'en cacher tant elle sait que Napoléon lui mange dans la main. Alors, quand il lui faut se rendre en Italie à la demande pressante de son époux, Joséphine n'éprouve aucun scrupule à emmener à ses côtés le jeune Louis-Hippolyte, dont elle ne peut plus se passer. En juillet 1796, Napoléon a la joie immense de retrouver sa femme, qui l'a rejoint jusqu'à Milan. Il remarque à peine le jeune capitaine Hussard, inclus dans la délégation sur place, tant il est heureux de pouvoir serrer sa femme dans ses bras. Malheureusement, leurs retrouvailles sont rapidement écourtées. Napoléon devant repartir pour organiser les opérations militaires en cours. Joséphine a tout le loisir de poursuivre sa romance avec le jeune Louis-Hippolyte. C'est en juillet 1798, alors qu'il est en pleine campagne d'Égypte, que Napoléon est averti des infidélités de sa femme. Ce n'est pas la première fois que son entourage lui parle de cette liaison. Son frère Joseph l'avait déjà alerté quelques mois plus tôt, mais Napoléon avait alors refusé d'y croire. Joséphine, néanmoins sommée de s'expliquer, s'était défendue avec véhémence, outrée par ses accusations, selon elle, totalement fausses. Mais cette fois-ci, sa colère éclate. Dans son bureau, Napoléon, furieux, traverse à grands pas la pièce de long en large, en jurant et en menaçant de mille vengeances imaginaires sa femme infidèle. Trop, c'est trop. Cette impudente fait de lui la risée de tous. Et depuis plusieurs mois, son honneur est en jeu. Pour la première fois, Napoléon envisage le divorce. Mais en attendant de rentrer en France pour parler à son épouse, l'homme décide de se consoler, en prenant pour maîtresse la femme de l'un de ses officiers. La roue vient de tourner pour Joséphine.
À ce moment-là, Joséphine réalise qu'elle est allée trop loin et qu'elle est sur le point de tout perdre. À Paris, sa belle famille refuse désormais ses invitations et la perspective d'un divorce lui fait prendre conscience à quel point son mariage avec Napoléon est un pilier dans sa vie et dans celle de ses enfants. Elle met alors un terme à sa liaison avec Louis-Hippolyte et achète dans la foulée le château de Malmaison, dans lequel elle décide d'attendre seule son mari pendant les semaines qui précèdent son retour. Château de Malmaison, avril 1799. Assise à son secrétaire, Joséphine relit une fois encore les nombreuses lettres que son mari lui a adressées. Ses semaines de solitude dans le château de Malmaison l'ont amenée malgré elle à se recentrer, à se poser, à réfléchir à ces 3 années qui se sont déroulées depuis son mariage avec Napoléon. Des scènes de famille lui reviennent, des rires pendant les repas, la prévenance de son époux, toujours inquiet et attentionné pendant la période du mois où ses règles douloureuses la clouent au lit, sa douceur, le baiser délicat qu'il lui dépose tous les matins à l'aube sur le front, avant de partir vers ses obligations. Joséphine réalise qu'elle a cruellement manqué d'empathie et de reconnaissance envers son époux, qui, en plus d'être un mari exemplaire, embrasse une carrière brillante qui le couvre de gloire et de prestige un peu plus chaque jour. Tout à ses pensées, Joséphine entend soudain le hennissement d'un cheval. Elle colle le front à la fenêtre. Le ciel est bas, la nuit commence tout juste à tomber sur la campagne déserte. Elle aperçoit alors une ombre qui remonte l'allée centrale sur le dos d'un magnifique pur sang arabe gris clair, lancé au galop. Napoléon est enfin de retour. Fébrile, Joséphine défroisse sa robe nerveusement et replace un nœud dans ses cheveux, avant de s'élancer à sa rencontre, prête à tout pour reconquérir le cœur brisé de son mari.
Mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu. Napoléon a perdu trop d'énergie, a aimé follement sans retour. Après des nuits, des semaines, des mois à s'être rendu malade d'amour et de désespoir, son cœur est désormais essoré, à sec. Bien sûr, Joséphine est toujours aussi belle, et son air repentant et inquiet imprime sur son visage une douce fragilité qu'il n'avait jamais vue. Mais lorsqu'il l'imagine entre les bras de ce jeune coq de Louis-Hippolyte, une colère bouillonnante se propage dans ses veines. Après de froides salutations qui laissent Joséphine démunie, Napoléon ne tourne pas autour du pot et fait exploser sa fureur et son amertume. Il évoque son honneur et son amour-propre avant de proférer des menaces de divorce.
Cette fois-ci, Joséphine ne cherche plus à nier. L'heure n'est plus au mensonge. Le mari et la femme sont en train de vivre l'un de ces moments de bascule que traversent tous les couples. Ces moments où le fantasme amoureux s'évapore et où il faut faire face au réel. Ces moments où il n'y a pas d'autre solution que de mettre les mains dans le cambouis pour s'extirper d'une situation engluée, faire les réglages nécessaires, ou bien se séparer. Ces moments où, comme le dit si bien l'expression populaire, ça passe ou ça casse. Et très souvent, ça casse. Pour garder son mari, Joséphine reconnaît ses torts, s'excuse 1000 fois, pleure et évoque ses deux enfants, Eugène et Hortense, que Napoléon adore. Elle promet d'être désormais une épouse aimante, attentive et soutenante. Une épouse présente. Quand la conversation s'achève, l'aube n'est plus très loin et Napoléon n'a pu se résoudre à quitter sa femme. Alors, cette nuit-là, un nouveau pacte est scellé entre eux. La passion est enterrée, mais mari et femme décident de former désormais une équipe solide où le soutien, l'affection et la confiance formeront le socle de ce nouveau départ. Tous deux s'endorment l'un contre l'autre, épuisés mais apaisés.
Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
Napoléon n'est pas encore empereur, mais à la suite du célèbre coup d'État du 18 Brumaire, il est devenu premier consul de France. La famille Bonaparte vit à présent au palais des Tuileries, où Joséphine se voit attribuer un rôle politique officieux. En plus d'accompagner son mari dans tous ses déplacements, chaque membre du corps diplomatique qui sort d'une audience officielle avec Napoléon a l'obligation de lui rendre visite. Napoléon souhaite ainsi rendre sa femme populaire pour étendre son emprise sur la société. Ce que résume parfaitement la célèbre phrase qu'on entend souvent sous l'Empire « Napoléon gagne les batailles, Joséphine gagne les cœurs ». Le couple a mûri. Napoléon a relégué ses crises de jalousie passionnelle, Joséphine s'est assagie. Ensemble, main dans la main, ils font désormais front pour mener au plus haut la brillante carrière de Napoléon. Le pacte noué entre eux au retour d'Égypte du général est plus que jamais d'actualité.
Seule ombre au tableau, Joséphine n'arrive pas à retomber enceinte. Or, la question de la descendance devient de plus en plus pressante pour Napoléon, dont les ambitions politiques exigent d'avoir un héritier à qui léguer le pouvoir. Alors, quand l'homme marié se met à cumuler les maîtresses à un rythme effréné, Joséphine sent le danger se rapprocher.
» 1803, Palais des Tuileries. Ce matin-là, Joséphine est réveillée par des tiraillements dans le bas-ventre. Dans la foulée, elle sent une lourdeur dans ses seins, particulièrement sensible depuis quelques jours. La femme de Napoléon se redresse en grimaçant avant de sortir de son lit pour se rendre aux toilettes. Mais alors qu'elle se rhabille, une pensée traverse son esprit. Ses dernières règles lui semblent assez lointaines. C'est presque en courant qu'elle rejoint son secrétaire, dans lequel elle farfouille, avant de mettre la main sur un petit calendrier. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 5 jours de retard! Joséphine ose à peine y croire. Fébrile, elle se rend d'un pas vif dans la salle de bain et se déshabille entièrement. Face au miroir, elle observe fixement sa poitrine, soupèse chacun de ses seins, pose ses mains sur son ventre, qu'elle se met à caresser machinalement. 33 jours. Son cycle le plus long n'a jamais dépassé 31 jours. Ça ne peut qu'être ça. Évidemment que c'est ça. Joséphine le sent, le sait. Elle est enceinte. Folle de joie, la future impératrice se jette dans son lit en riant avant de se relever aussitôt. Il lui faut annoncer la nouvelle à son mari au plus vite. Comme il va être heureux, cette grossesse est ce qui peut leur arriver de mieux. Ce bébé tant attendu est enfin là pour achever de solidifier leur couple et donner une descendance légitime au premier consul de France. Joséphine court jusqu'au bureau de son mari. Par chance, il est présent, et seul, ce qui est désormais très rare. En voyant sa femme pénétrer en trombe dans son bureau, Napoléon lève des yeux étonnés. Il n'a pas l'habitude d'être dérangé pendant son travail, pas même par son épouse. Alors qu'il s'apprête à lui demander la raison de ce dérangement intempestif, Joséphine avance jusqu'à son fauteuil, lui prend une main, la pose sur son ventre.
Mon cher mari, je suis enceinte.
Comment ? Mais en es-tu certaine ?
Oui, sans l'ombre d'un doute. Napoléon se lève aussitôt pour serrer sa femme dans ses bras et la couvrir de baisers.
Oh, Joséphine, c'est merveilleux.
Joséphine passe la journée sur un petit nuage. Le médecin de famille a été prévenu aussitôt et doit confirmer la grossesse le lendemain matin à la première heure. Mais dans la soirée, Joséphine sent que quelque chose ne va pas. Inquiète, elle se rend aux toilettes en priant pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Un sang rouge vif se met aussitôt à couler d'entre ses jambes. Effondrée, la femme de Napoléon se demande comment trouver le courage d'annoncer à son mari que ses règles sont arrivées et qu'il n'y a pas, peut-être plus, de grossesse. Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur de France. Malgré l'absence d'héritier et contre l'avis de sa famille et de nombreux proches, il décide de sacrer lui-même Joséphine et de lui accorder le titre d'impératrice. Il sait à quel point sa femme est populaire. Son esprit, sa prestance et son sens inné de la mode en font la hit girl préférée des Français. L'empereur n'a plus que très peu de temps à consacrer à sa femme. Mais il a toujours pour elle une attention et une prévenance qui déconcertent les domestiques de la maisonnée. De son côté, Joséphine se montre désormais une épouse modèle, dévouée et soucieuse du bien-être de son mari. Plus solide que jamais, le couple est arrivé main dans la main sur la marche la plus haute du podium.
À sa façon, Napoléon reste loyal à Joséphine, oui. L'empereur soutient sa femme face à l'animosité de sa famille, lui offre un titre en or pour qu'elle brille à ses côtés, et continue de lui porter une affection sincère. Mais leurs premières années de mariage et la désinvolture avec laquelle sa femme s'est jouée de son amour l'ont endurci. Le code civil qu'il instaure en 1804 énonce ainsi que la femme mariée est désormais placée sous la tutelle de son époux, auquel elle doit obéissance totale, en plus d'être privée de droits juridiques. Aussi, sans l'autorisation de son mari, la femme ne peut plus gérer ses finances, avoir un travail ou signer des contrats. On se souvient des transactions commerciales illicites auxquelles Joséphine avait associé son amant, Louis Hippolyte, quelques années auparavant dans le dos de son époux. Ce nouveau code civil prévoit aussi que le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme, tandis que lui-même peut avoir autant de maîtresses qu'il le veut, du moment que l'adultère n'est pas commis sous le toit familial. Certains pensent tout bas que si Napoléon fait reculer les droits des femmes, c'est pour se venger de n'avoir pas su cadrer la sienne. En tout cas, si la défiance de l'empereur envers les épouses frivoles et dépensières l'incite à établir ses nouvelles règles politico-sociétales misogynes et revanchardes, elle ne l'empêche pas de vivre une nouvelle passion. Car non, Napoléon n'en a pas fini avec l'amour. Janvier 1807, Varsovie, Pologne. Napoléon et ses troupes occupent le territoire polonais. Leur présence est acclamée par les habitants du pays, qui considèrent les Français comme des libérateurs du joug de l'armée impériale russe. En ce début d'année, un bal est organisé par le ministre français des Relations extérieures, dans la capitale de Varsovie. C'est à cette occasion que Napoléon croise le regard de la douce Maria Walewska, 26 ans. Jeune épouse d'un vieux noble septuagénaire. Charmé par la jeune femme, l'empereur l'invite à danser. Jusqu'à ce moment-là, aucune de ses nombreuses maîtresses n'avait réussi à faire ressurgir cette passion amoureuse qui l'avait consumée pendant ses premières années de mariage avec Joséphine. Mais ces quelques minutes entre les bras de la belle polonaise suffisent à enflammer Napoléon, pour lequel le coup de foudre est immédiat. Sur le perron d'une luxueuse demeure, un valet se saisit de l'énorme bouquet de roses rouges que lui tend le grand maréchal du palais de l'empereur, ainsi que d'une lettre cachetée par le sauveur impérial. Le tout à l'attention de Madame Walewska,
le domestique contient difficilement une expression de surprise en s'emparant de l'encombrant bouquet. Après avoir glissé la lettre à l'intérieur des fleurs, il traverse le corridor jusqu'au petit salon où se trouve sa maîtresse. Lorsqu'elle se saisit du bouquet de fleurs et de la lettre, le rouge monte aux joues de la jeune Maria, qui s'empresse de congédier son valet. Restée seule dans la pièce, elle contemple d'un air méfiant les roses rouges éclatantes avant de décacheter prudemment le parchemin. « Hier soir, je n'ai vu que vous. Je n'ai admiré que vous. Je ne désire que vous. » Cette première phrase fait trembler ses mains. Si Maria refuse dans un premier temps de donner suite à cette lettre enflammée, celles qui suivent, en grand nombre, finissent par la séduire. Une histoire d'amour intense ne tarde pas à se nouer entre l'empereur et la comtesse, qui finit par tomber enceinte de Napoléon. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
Dans le salon carré du Louvre, transformé en chapelle pour l'occasion, la cérémonie religieuse d'un mariage grandiose est en cours. Ce 2 avril 1810, pas moins de 8000 invités sont massés dans la grande galerie pour ne rien manquer du défilé de l'impressionnant cortège. Dans la foule se trouve Joséphine de Beauharnais, plus élégante et raffinée que jamais. L'ex-Madame Bonaparte est venue assister en toute amitié à l'union entre Napoléon et Marie-Louise d'Autriche, fille aînée de l'empereur d'Autriche. Joséphine ne le sait que trop bien, la jeune Marie-Louise a été choisie pour sceller l'alliance politique entre les empires des deux pays, la France et l'Autriche. Et surtout, surtout, pour assurer la lignée Bonaparte. Alors que sa voisine de droite s'émeut devant ce si beau couple d'amoureux, Joséphine se retourne vers elle et lui répond froidement. « Ne vous méprenez pas, madame. Napoléon n'a que 2 femmes dans son cœur, madame Walewska et moi-même. » En 1810, Napoléon est donc remarié. Son vœu d'un héritier est rapidement exaucé, puisque Marie-Louise tombe très rapidement enceinte et donne naissance à Napoléon-François-Joseph-Charles Bonaparte, le petit Napoléon II, en mars 1811. Si son cœur est toujours pris par Maria, sa maîtresse polonaise, Napoléon éprouve néanmoins un grand respect pour sa femme, nouvelle impératrice des Français. Mais l'ombre de Joséphine est toujours présente. D'ailleurs, Marie-Louise, timide, discrète et peu intéressée par la société parisienne, ne souhaite pas rencontrer celle qui bénéficie toujours d'une aura magnétique auprès des Français et de son époux. Car oui, depuis leur divorce, Joséphine et Napoléon sont restés très proches l'un de l'autre et se voient régulièrement. La relation passionnelle qui a rendu leur mariage si mouvementé s'est transformée en un amour profond, qui a su s'ancrer et prendre de l'ampleur en dépassant le cadre du sentiment amoureux. Napoléon porte sur son ex-femme un regard à la fois tendre et admiratif et lui assure une loyauté stupéfiante. Il ne peut pas se l'expliquer, mais à ses yeux et dans son cœur, Joséphine est à part, tout simplement unique. Février 1810. Alors que l'union de Napoléon avec Marie-Louise d'Autriche se dessine, l'annulation du mariage religieux entre l'empereur et Joséphine est actée en ce début d'année. Mais loin de signer la fin de toute relation entre les deux ex-époux, ce nouveau départ est l'occasion pour Napoléon de montrer un soutien sans faille à celle qu'il a aimée plus que tout et qui continue d'avoir une place de choix dans son cœur. C'est dans l'intimité de la maison des Tuileries que les anciens amants se retrouvent autour d'un verre de Bourgogne pour l'empereur et d'un punch glacé pour Joséphine. Pour cette entrevue, l'impératrice s'est parée d'une toilette somptueuse, magnifiée par les luxueux bijoux qui brillent à ses doigts, à ses poignets, à sa gorge, à ses oreilles et jusque dans ses cheveux. Napoléon le sait, aucune femme ne peut surpasser la grâce et l'éclat de son premier amour. Après avoir évoqué ensemble et avec une tendresse parfois nostalgique certains moments du passé, Napoléon fait savoir à son ex-femme qu'il est tout à fait disposé à lui conserver le titre d'impératrice douairière. Il s'engage à lui donner l'Élysée, le château de Malmaison et son immense domaine, ainsi que le château de Navarre qui permettra à Joséphine, sur ordre de l'empereur, de devenir duchesse de Navarre. Les deux anciens amants trinquent pour sceller ce nouveau pacte. Joséphine remercie son ex-époux pour son soutien indéfectible et en profite pour lui demander une petite faveur. Mon cher ami, tes largesses me vont droit au cœur. Et si je puis me permettre d'être tout à fait honnête avec toi, je dois t'avouer que j'ai une dette de plusieurs milliers de francs à rembourser au modiste Leroy, ce qui me met dans une situation plus que délicate.
Mon Dieu, Joséphine, Marie-Antoinette elle-même était plus raisonnable que toi dans ses dépenses. Mais soit, je te ferai parvenir la somme nécessaire dès demain. Napoléon interviendra à plusieurs reprises pour éponger les dettes de son ancienne épouse et l'extirper de la quasi-faillite dans laquelle la plonge son train de vie exubérant. Les deux ex-époux sont restés soudés, oui, mais clairement au bénéfice de Joséphine, qui, même après le divorce, continuera d'obtenir ce qu'elle veut de la part de l'empereur. Joséphine restera célèbre dans l'histoire pour avoir été la figure de proue du style empire. Sous son règne, l'élégance et le raffinement deviennent les maîtres mots des salons parisiens et s'imposent dans la vaisselle, les tissus, les tenues. Mais la vérité, c'est que c'est sur Napoléon que son influence aura été la plus grande.
Île de Sainte-Hélène, océan Atlantique. Lors de son dernier exil, l'empereur déchu rédige ses mémoires, abandonné dans une ferme rustique battue par les vents et la pluie. Pour être plus exact, il les dicte à son valet, qui les prend en note. Évidemment, les souvenirs et réflexions autour de son immense carrière militaire et politique sont le sujet majeur du récit. Pourtant, en off, Napoléon évoque très souvent les femmes qui ont traversé sa vie et, sans grande surprise, le souvenir de Joséphine, morte 6 ans auparavant, reste le plus vif dans son cœur et dans son esprit. Napoléon sait ce qu'il doit à sa rencontre avec cette femme d'exception. Sa plus belle passion amoureuse, bien sûr, mais aussi son élévation politique. C'est sous son égide que le bouillonnant Corse a appris les bonnes manières de la capitale. Et c'est elle qui lui a appris à naviguer avec habileté dans l'arène des salons parisiens. C'est encore elle qui a fait campagne à ses côtés pour le consulat. Et c'est toujours elle qui, devenue impératrice, aura su conquérir le cœur des Français, qui lui resteront fidèles après la dissolution du mariage impérial. En 1821, Napoléon se meurt. Couché sur son lit, sa conscience le quitte peu à peu, tandis que les derniers souvenirs affluent dans son esprit. Joséphine nue à ses côtés. Son rire magique, ses mots adorables, leurs disputes, son élégance, sa folie dépensière, son humour, son tempérament de feu, sa douceur aussi, parfois. Et c'est en murmurant le prénom de celle qu'il a aimée toute sa vie que l'empereur s'éteint sur l'île de son exil. On a beaucoup analysé le couple Napoléon-Joséphine en invoquant un déséquilibre dominant-dominé, plaçant tour à tour l'impératrice en manipulatrice, vénale ou en pauvre femme répudiée. Napoléon, lui, est encore souvent dépeint en mari cocufié sous l'emprise de sa femme. Mais la vérité, c'est que tous les deux ont su nouer une telle complicité au fil des ans et des épreuves traversées que l'amour amoureux, qui fait office de socle dans les couples contemporains, paraît bien pâle et bien fragile comparé au lien puissant qui a su unir Napoléon et Joséphine, au-delà du cadre étroit que représente le mariage.
Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Claire Lou, racontée par Lucrèce Sacella et François Marion, et réalisée par Célia Brando.
Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.